Bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième rencontre du cycle 40 ans changer de culture qui est organisée à l'occasion des 40 ans de la Bibliothèque publique d'information et du Centre Pompidou. Cette soirée est donc sur la culture participative. Elle est intitulée « Participer, enjeux et limites de la culture de la participation ». Nous allons commencer tout de suite avec une table ronde sur l'économie de la participation, dont l'animation sera faite par Xavier Delaporte, avec Vincent Rouzet, Marianne Dujarrier et Maria Tetiakov. Elle sera suivie d'une autre table ronde sur la politique participative et citoyenneté qui commencera à 19h30. Et dans l'immédiat, je vous laisse en compagnie de Xavier Delaporte et de nos trois invités, qu'il va vous présenter tout de suite. Merci bien.
Merci, bonsoir, merci d'être venu. Donc c'est une belle question que la question de la participation, parce que c'est une promesse du numérique au cœur de ce qu'on a appelé le web 2.0, qui a succédé, comme son nom l'indique, au web 1.0. Donc deuxième phase d'une histoire du web, où les technologies ont permis à tout un chacun et très facilement de se faire producteur de contenu, de paroles ou d'actes. Promesse du numérique donc qui a rejoint une aspiration politique plus ambitieuse et plus ancienne, une participation plus large des citoyens à la vie politique, qu'elle soit locale ou plus globale. Ce versant sociopolitique de la participation, il est sans doute trop tôt pour en dresser un bilan, tant la prise en compte par les institutions est lente et compliquée, mais on peut noter par exemple, sans doute vous en parlerez tout à l'heure dans la table ronde, une première tentative par exemple d'intégrer la participation citoyenne dans le processus de la fabrication de la loi à l'occasion de la loi pour la République numérique d'Axel Lemaire. C'est un exemple rare, mais il existe. Mais un autre versant de la participation qui lui commence à être ancré dans la pratique et qui s'est fondé dans un ensemble plus vaste, alors, dont on parlera, qu'on essaiera de définir, qu'on pourrait appeler l'économie collaborative, mais qui comprend en fait des activités extrêmement diverses. Le financement participatif, mais aussi des activités de travail à la demande, ou alors d'échanges marchands et non marchands, etc. Mais enfin, il faudra définir ça de manière plus précise. Tout ça est à la fois très différent, mais relié quand même par une sorte d'idée, et c'est de cette idée dont on va discuter ce soir, pour à la fois tenter d'en cerner les contours de manière plus fine que je viens de le faire, mais aussi pour essayer d'en faire la critique. Parce que c'était nécessaire, parce que sur cette idée de la participation s'est construite une économie qui réussit des tours de passe-passe assez remarquables. Vendre les fruits d'une participation gratuite, faire croire que les intermédiaires ralentissants et coûteux ont disparu, alors même qu'ils sont pour la plupart du temps juste recréés ailleurs, ou déléguer au public le soin de financer ce qui devrait l'être par d'autres. Et ce sont là que des exemples, des limites qu'on peut poser à cette question de la participation, et c'est un terme lui-même qu'on interrogera. Donc première des deux tables rondes consacrées à cette question, la deuxième ce sera plus la question de la participation citoyenne à la vie de la démocratie, etc. Et aujourd'hui on parlera la question plus proprement de l'économie culturelle, mais aussi on dérivera sur les questions du travail, avec Marie Tretiakov qui est la coordonnatrice générale d'une plateforme qui s'appelle ProArti, dont on va discuter des détails du fonctionnement, avec Vincent Rouzet qui est maître de conférence en sciences de l'information et la communication à Paris 8 au sein d'un laboratoire qui s'appelle le SEMTI, et qui dirige un gros projet ANR qui s'appelle Collab, et avec Marianne Dujarrier, qui est sociologue, professeure à l'Université Paris 7, et qui travaille beaucoup aujourd'hui sur les questions de mutation justement du travail. Alors, cette discussion va durer une heure et demie. L'idée, c'est qu'on discute là autour de la table pendant une heure, et puis qu'après, les questions s'ouvrent à vous. Et on va commencer avec Marie Tretiakov pour essayer de comprendre ce qui nous servira d'une sorte de cas d'espèce, mais qu'on élargira, essayer de comprendre ce que c'est que ProArti et donc ce que ça peut être qu'une plateforme. Alors déjà, est-ce que le terme de financement participatif c'est quelque chose qui convient à la définition de ce que vous faites?
Excellente question. Bonjour et merci beaucoup à la BPI pour cette invitation. Alors très rapidement, donc ProArti c'est une plateforme de financement participatif qui s'inscrit dans le cadre de l'écosystème des plateformes de financement participatif dont on entend beaucoup parler en ce moment, avec trois grandes spécificités. La première, c'est qu'on est spécialisé dans le champ culturel. Donc, on sait toute la culture, mais rien que la culture. On accompagne des projets dans tous les champs culturels. Donc, ça va de l'audiovisuel aux arts plastiques, en passant par le spectacle vivant, les éditions et la musique. Il faut savoir que ProArty a été créé par une personne qui s'appelle Grégoire Harel, qui est directeur du théâtre de la faïencerie à Creil. Et ProArty a été créé grâce au soutien du ministère de la Culture dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Services numériques culturels et innovants. On a postulé à cet appel à projet en partenariat avec des institutions culturelles un petit peu partout sur le territoire. Donc l'idée en fait à l'origine de ProArty et de son fondateur, c'était de créer un outil de mutualisation à destination des acteurs culturels tout petits ou très gros qui souhaitent s'ouvrir au financement participatif et au financement privé au sens large, c'est-à-dire au financement des particuliers et des entreprises, et de bénéficier d'un accompagnement pour se lancer. Donc on a accompagné à peu près 300 projets culturels depuis le lancement de ProArty qui a eu lieu en juin 2013. Donc on est une relativement jeune plateforme.
Alors comment ça se passe ? Il faut que vous nous expliquiez vraiment très concrètement comment ça se passe. Des projets culturels. Est-ce que ce sont des lieux qui font un appel à participation ? Est-ce que ça peut être une compagnie ? Est-ce que ça peut être une maison de disques par exemple ? Qui dépose le projet ?
Alors, ça peut être tout type d'acteur, donc ça peut être un particulier, ça peut être une association, ça peut être une compagnie, ça peut être un théâtre, ça peut être une maison de disques, ça peut être vraiment tout type de structure. Alors après, et ça fait un peu la transition sur la deuxième spécificité de ProArty, on est la seule plateforme aujourd'hui, en tout cas dans le secteur culturel, portée par un fonds de dotation. Donc on est d'intérêt général, autorisé à recourir à la générosité du public. Donc en fait, c'est vrai que le terme qui est le plus approprié pour l'activité, en tout cas de plateforme de ProArty, c'est le mécénat participatif. On fait beaucoup, on va dire que 80% des porteurs de projets sur ProArty sont autorisés à recourir au mécénat. Donc c'est souvent des associations. Mais on accompagne aussi des artistes plasticiens tout seuls et des entreprises, des maisons de production, etc. Ça, c'est tout à fait possible.
Est-ce que vous voulez terminer sur la troisième spécificité ?
Oui, la troisième. Pour terminer sur la deuxième, comme on a un fonds de dotation, ça nous permet de prendre en charge l'émission des reçus fiscaux. On a une expertise sur le mécénat. C'est-à-dire que pour les petits porteurs de projets qui ne savent pas s'ils sont éligibles au mécénat, etc., on les reçoit et on écoute leurs projets et on les expertise pour savoir s'ils sont éligibles au mécénat ou pas. S'ils ne sont pas éligibles, ils peuvent faire une campagne de financement participatif classique en pré-vente, on peut en entendre parler, c'est-à-dire en échange d'un don, on va offrir un album, etc. Et s'ils sont éligibles au mécénat, ils peuvent rentrer dans le cadre légal du mécénat qui permet aux donateurs de bénéficier d'une réduction fiscale quand ils soutiennent un projet.
D'accord.
Ce qui fait qu'avec du recul, on se rend compte que sur les projets éligibles au mécénat, le don moyen il est de 100 €, alors que sur les projets non éligibles au mécénat, le don moyen est de 50 €. Donc ça ne va pas inciter les gens à donner, mais ça va les inciter à donner plus pour ceux qui payent des impôts parce qu'il y a ce dispositif fiscal. Donc ça, c'est la deuxième spécificité. Et la troisième, c'est l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas que du financement participatif. On accompagne aussi sous diverses formes. Alors, en financement participatif, on accompagne tous les porteurs de projets qui souhaitent déposer un projet. C'est-à-dire qu'on est une plateforme, on peut se connecter sur notre site, voir comment ça fonctionne et déposer un projet. Mais toute personne qui souhaite ou tout porteur de projet qui souhaite nous rencontrer peut venir dans nos bureaux à Paris ou alors sur Skype. On les rencontre et on essaye de rentrer vraiment dans l'économie des projets et de les accompagner dans la démarche. Et à ce titre, on a créé un organisme de formation professionnelle pour pouvoir accompagner ceux qui en ont le plus besoin parce que ça va être peut-être un des sujets de discussion. Le financement participatif va beaucoup dépend de la capacité du projet à aller mobiliser des donateurs, plus que, par exemple, que la qualité du projet. Parfois, ça va être vraiment sa capacité à mobiliser. Du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment concentré notre action et notre attention sur l'accompagnement des porteurs de projets qui se présentent à nous.
Alors, vous avez dit que ça peut être des types d'acteurs très différents. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont besoin d'un recours à vous ?
Alors, c'est pour, en général, c'est parce que c'est pour financer des projets. Alors, il y a deux choses. Pour se lancer dans une campagne, en général, il faut se poser deux questions. C'est, alors, est-ce que déjà j'ai besoin de l'argent? Parce que ça sert à rien de faire une campagne quand, si on n'a pas un projet à financer. Et la deuxième, c'est aussi, est-ce que j'ai envie de m'inscrire dans une démarche participative et d'aller justement solliciter le public pour financer mon projet. Donc, c'est sûr qu'il faut réunir ces deux volontés. Alors après, il y a plein de raisons. Il y a des porteurs de projets qui vont être dans des financements plutôt classiques et qui vont lancer un projet un peu atypique et qui se disent que le financement participatif peut être une bonne solution d'avoir de l'argent qui sort un petit peu des clous. Ça, c'est vrai qu'il y a plein de projets, je pense, qui n'auraient peut-être pas vu le jour il y a un certain temps si le financement participatif n'avait pas existé. Mais il y a aussi des projets qui ont des financements classiques, qui pourraient déjà faire financer une bonne partie de leur projet grâce à d'autres financements, mais qui se disent « j'ai envie de compléter en faisant participer le public ».
Quel intérêt à part d'affichage ?
Alors, il y a un intérêt, je pense, en communication, c'est sûr et évident. C'est-à-dire que communiquer 6 mois avant la création d'une œuvre, c'est très intéressant, en fait, parce qu'on mobilise du public avant que le projet soit créé. Donc, ça permet de créer des communautés en amont et de mobiliser du public qui viendra ensuite voir le projet, qui viendra faire boule de neige, etc., enfin, qui viendra en parler. Donc ça, c'est déjà une bonne raison. Et puis, je pense qu'il y a aussi des... C'est surtout aussi dans le domaine des associations, mais disons que ça peut s'étendre. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi imaginer le financement participatif dans une stratégie un peu long terme, justement, de diversification des ressources, de se dire, tout comme il y a des grosses structures qui ont des cercles de donateurs qui donnent régulièrement, bah pourquoi une petite structure ne pourrait pas aussi faire ça, c'est-à-dire mobiliser de façon régulière un cercle de passionnés qui peuvent donner ce qu'ils veulent, enfin à hauteur de leurs moyens, autant qu'ils veulent régulièrement en fait.
En moyenne, c'est combien à peu près que demande un projet en montant ? Ça peut aller de combien à combien le montant demandé par un projet ?
Alors ça, c'est une bonne question parce qu'on a un peu tendance, en lisant dans la presse, les grosses campagnes. Enfin, on entend beaucoup parler des grosses campagnes de financement participatif. Et donc, on a un petit peu tous tendance à se dire « Ah ben, je vais pouvoir lever beaucoup d'argent ouais. » alors qu'en fait, la collecte moyenne en France, tout type de projet confondu et toute plateforme confondue est autour de 4000 euros. Alors, je parle en dons, hein. Et après, il y a les plateformes aussi d'investissement ouais, okay. et en prêt. Mais en tout cas, dans le champ du don, c'est 4 000, donc c'est des petits montants. Mais ça va apporter plus que... en fait, l'avantage de faire une campagne va au-delà du financier. Donc parfois, en fait, même si on a un projet qui représente beaucoup d'argent, le fait de faire une campagne, même si c'est sur une petite somme par rapport au reste, ça peut apporter d'autres choses, comme je disais tout à l'heure, en communication et en création de communauté.
Alors, 4000 euros à 100 euros en moyenne, vous disiez tout à l'heure quand c'est du mécénat, ça fait 400 personnes, c'est ça qui donne en moyenne, hein, là on parle de moyenne. Est-ce que vous avez une idée de qui sont ces 400 personnes ? Pardon, c'est pas 40 ou 400 ? Ah ouais, c'est pour ça que j'ai pas le prix Nobel de mathématiques. Mais donc ça fait. Donc 40, ça fait. Ouais. C'est qui ces 40 ? Est-ce que vous avez une idée de qui c'est ? Est-ce que c'est la famille, les copains, etc. Enfin, c'est difficile pour vous de le savoir, mais les retours que vous avez ?
Alors, c'est très varié, donc je ne vais pas être très précise dans ma réponse, mais en même temps, c'est vraiment au cas par cas. Disons que c'est sûr que, en fait, pour lancer, donc on parle souvent de la fameuse théorie des trois cercles. Pour quand on lance une campagne de financement participatif, pour
alors,
que ça
elle
fonctionne.
Elle est fameuse, mais peut-être qu'il faut.
Voilà,
pour
que ça fonctionne, il faut d'abord s'adresser à son premier cercle, qui est son cercle proche. C'est les gens qui vous soutiendraient les yeux fermés, sans connaître le projet que vous allez faire, parce qu'ils connaissent la qualité de votre travail. Ensuite, le deuxième cercle, c'est les proches des proches, c'est ceux qui vous connaissent, mais qui ont besoin d'en savoir plus, parce qu'ils ne vous connaissent pas personnellement, ou voilà, ils ne sont pas suffisamment proches. Et le troisième cercle, c'est les inconnus, donc c'est ceux qui vont peut-être être passionnés par exactement le même domaine que dans lequel s'inscrit votre projet, mais qui ne vous connaissent pas du tout. Donc là, pour le coup, il faut réussir à les convaincre. Et donc, pour pouvoir convaincre ce troisième cercle, des gens qui ne vous connaissent pas, il faut nécessairement aller toucher d'abord le premier puis le deuxième, parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui arrive sur une page de collecte à 0 euros, votre projet a beau être magnifique, il va se dire « il y a un truc louche, je ne vais pas donner d'argent ». Donc c'est très important d'y aller pas à pas et de séquencer très très bien sa communication, et c'est vraiment ça qui va, qui va déterminer le succès d'une campagne de financement participatif.
Alors justement, sur la question du succès, est-ce que le succès, il dépend juste de la capacité à séquencer une campagne ou l'imaginer, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de, par exemple, de, je sais pas, les projets théâtraux marchent mieux que les projets machin, ou, enfin, est-ce qu'on peut déterminer des critères de réussite un peu à l'avance, disons, d'une campagne?
Non. Après, alors, je dirais que quand même, il y a une différence selon les secteurs artistiques, parce qu'on voit aussi les... en fonction des secteurs de, enfin, moi j'ai l'impression en tout cas en fonction des secteurs de la culture que il y a des compétences que certains secteurs vont avoir plus facilement que d'autres.
Par exemple, dites du mal d'un secteur.
Non, je dirais pas du mal, mais par exemple, je ne vais dire que du positif. Je dirais que dans le secteur, par exemple, du théâtre, qui est très subventionné, on va dire que en général, une compagnie de théâtre fait un budget. On lui demande de faire un budget parce que pour faire une campagne, il faut être très transparent sur l'utilisation des fonds et sur combien vous va coûter le projet et comment je vais le financer. Et donc, en général, je dirais que dans le spectacle vivant, on arrive très facilement à mobiliser, enfin, à avoir facilement un budget, voilà. Alors que, par exemple, dans la musique, ça, il va y a plus avoir de d'aisance sur le sujet de la communication. Mmh. En fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des campagnes dans la musique, parce que je pense que c'est, bon, la musique s'en est emparée plus tôt que les autres secteurs, je pense, enfin, avec peut-être l'audiovisuel.
Ça, on va y revenir avec Vincent Rosé. Parce
voilà.
Que...
Mais voilà, donc je remarque qu'il y a quand même il y a des différences, mais c'est plus dans la capacité des acteurs à s'organiser pour ouais. faire une campagne. Et ensuite, ça va être vraiment la capacité, enfin, ce qui va fonctionner, c'est vraiment la capacité du porteur de projet à mobiliser, c'est-à-dire un porteur de projet qui se lance alors qu'il n'a pas de temps. Bah pour le coup, lui, il va beaucoup moins bien collecter que quelqu'un qui est à temps plein là-dessus et qui va s'y dédier toute la journée.
Alors, j'avais une dernière question avant qu'on passe, évidemment vous reparlerez quand vous voulez, mais parmi les critères d'éligibilité d'un projet, il y a l'exigence artistique, c'est le terme exact, je ne le retrouve pas là tout à coup, mais voilà. Par ailleurs, il y a d'autres critères comme le porteur de projet doit être apolitique et aconfessionnel, etc., qui me semblent des critères parfois un peu compliqués à déterminer. C'est-à-dire que si on savait exactement ce que c'est que l'exigence artistique, il y aurait un pan de la philosophie esthétique qui n'existerait pas. Et par ailleurs, apolitique et aconfessionnel, c'est des questions qui sont compliquées. Bon. Et donc, du coup, ça veut dire que qui juge ?
C'est une très bonne question. En fait, quand on a... Donc là, vous faites référence aux conditions qu'on a mises sur notre
site. C'est ça, je suis à la réalise pour déposer un projet.
Oui, et alors, il faut savoir que ces critères, on les a rédigés au tout début de ProArty. Je pense qu'il faudrait qu'on les adapte quand même aujourd'hui, avant d'avoir l'expérience qu'on a aujourd'hui, pour donner un petit peu, on va dire, la philosophie des projets qu'on veut accompagner après. Dans les faits, en fait, nous, ce qu'on a décidé, c'est que, comme on est une plateforme web, on veut pas être restrictif et on veut pas, on veut être ouvert à tous. Donc, en fait, la principale sélection que l'on mène au quotidien, c'est la structuration des projets. Donc là, il y a une vraie sélection, c'est-à-dire que on regarde vraiment si il faut être sûr que le projet va voir le jour et qu'il soit sur des bases solides et que voilà, quelqu'un qui vient nous voir en nous disant j'ai eu une idée hier soir en me couchant, on lui dit très bien, mais reviens nous voir quand tu es sûr que cette idée va se concrétiser. Et sur la qualité, en fait, on travaille avec nos partenaires artistiques, donc les partenaires de voilà, pour avoir un regard et pour essayer de mettre en avant des projets, parce qu'en fait, il y a une espèce de tension, on va dire, continuelle entre la qualité artistique d'un projet et sa capacité à les mobiliser. Et ça nous intéresse de voir. Parfois, on a vu plein de projets qui avaient une qualité artistique très très, enfin, qui était vraiment une très grande qualité et qui avaient du mal à les collecter. Et donc c'était pas lié à la qualité, c'était lié au fait qu'ils n'avaient pas l'équipe suffisante ou les capacités à aller collecter de l'argent. Et donc l'idée, c'est aussi que nous, on aide les projets qui ont du mal à aller faire campagne et qu'on réfléchisse à tous ces sujets-là avec nos partenaires. Voilà.
Mais juste, y a pas de... Dernière question, c'est quoi le taux de réussite? Alors, je sais pas comment vous avez... c'est quoi, sur les 300 projets, combien atteignent exactement ce qu'ils veulent?
Alors, les 300 projets dont je vous parle, c'est que des collectes en cours ou réussies.
Combien ont été réussis?
En fait, on a un taux de réussite, nous, de 80%. Ah. Alors, ce qui est assez élevé par rapport à la moyenne. En général, la moyenne dans le don, elle est plutôt autour de 60 à 70%. Nous, elle est plus élevée parce qu'on est un peu plus souple que d'autres plateformes. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler du tout ou rien. C'est on met un objectif et si on ne l'atteint pas, tout le monde est remboursé. Nous, on fait partie un peu d'une deuxième vague de plateformes qui a adopté une stratégie qui s'appelle celle des paliers. Enfin, nous, on l'appelle comme ça. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, quand on reçoit le porteur de projet pour l'aider à déterminer son objectif de campagne, dans un objectif de transparence, on lui conseille de segmenter en paliers son objectif et on détermine avec lui son seuil minimum vital, c'est-à-dire le palier minimum qui permet au projet de voir le jour dans des conditions viables. Mmh. Parfois, c'est 2000 euros, parfois c'est 10 000, ça dépend des projets. Et en fait, comme il y a certains projets qui se disent « moi, j'aimerais bien collecter plus que mon seuil vital », donc il va plus loin, mais on a un accord entre nous qui est que si le seuil vital est atteint, mais pas l'objectif final, on versera quand même l'argent.
Okay.
Parce qu'en fait, on se rend compte que quand les gens donnent, ce qu'ils veulent, c'est soutenir le projet. C'est, y a un objet, être remboursé, en fait, ça, tout le monde est perdant, aussi bien le projet que le donateur, parce que lui, le donateur, il a envie que le projet voie le jour. Et on s'est rendu compte qu'il y a certains projets, ils demandaient 4 000, ils atteignaient 3 000 et ça ne mettait pas en péril le projet. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette règle un peu plus souple.
Alors, Vincent Rosé, vous qui avez fait, alors, qui est allé regarder d'autres plateformes que ProArtif, hein, beaucoup de plateformes existantes, est-ce que vous pouvez nous resituer une plateforme comme ProArtif dans le panorama des plateformes de alors il y a de financement participatif, de crowdsourcing, de crowdfunding pardon. Bon, est-ce que vous pouvez nous replacer ProArtif dans le panorama des plateformes de financement de c'est plutôt la musique votre champ, mais ça a l'air de marcher, allez-y. Non,
celui-là.
Ouais, celui-là marche.
Ça fonctionne. C'est une très bonne question. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais juste rappeler que ce terme de participation est un terme un peu à la mode et qu'on n'a pas attendu le numérique pour participer. Notamment dans le milieu de la culture, on a un certain nombre d'exemples en littérature au XIXe siècle, des gens comme Mark Twain, des gens comme Jane Austen, qui ont fait un appel aux dons pour financer leurs livres. On a le Vincent Ricordo qui dirige Kiss Kiss Bang Bang et qui il y a quelques années avait publié un bouquin aussi rappelé que dans le cinéma Cassavetes avait fait une levée de fonds auprès du public. Dans le cadre des musées, c'est une histoire beaucoup plus ancienne avec notamment les Amis du Musée qui financent en musique également, et puis plus particulièrement avec toute cette vague qu'on a appelée le do-it-yourself, hein, où on avait l'habitude de se débrouiller, hein, et de faire financer et de faire l'appel comme ça. Et puis récemment, parce que vous parliez du projet Collab que je dirige, on s'intéresse aussi au Sud, hein, donc les pays qui ont cette tradition un peu vernaculaire de s'aider les uns les autres, la tontine au Sénégal notamment, où on met dans un pot commun et puis une fois que le pot est rempli, on le donne à la personne qui en a le plus besoin. Donc voilà, ce petit rappel pour montrer qu'on n'a pas attendu le numérique pour parler de participation et notamment de parler de participation financière. Alors, la deuxième chose avant de répondre et de retracer un peu la place de ProArtif, alors si je peux, dans le panorama, c'était de dire que voilà, cette idée de participation prend deux formes. Une première qui est celle qui renvoie aussi à toute une idéologie et l'idéologie d'Internet, qui est celle d'une intelligence collective. Hein, donc c'est une participation visant à créer collectivement quelque chose. Et puis un versant qui...
Ça, c'est l'exemple, c'est quoi ça, c'est Wikipédia par exemple.
Eh ben c'est ce qu'on a. J'allais y venir après, mais ce qui a été défini, alors j'y reviendrai aussi, sous le terme un peu problématique de crowdsourcing en anglais et dans son versant financier, le crowdfunding. Pourquoi problématique ? Parce que si l'on traduit le terme de crowd, hein, qui renvoie à foule, pour ceux qui s'intéressent un peu aux études sur la réception, aux études sur les médias, on sait bien que, enfin, en tout cas, il y a un siècle de littérature sur cette question de la foule qui s'est transformé en public, et puis public avec un S, et puis finalement la question des communautés, etc., etc., et montrer que c'était pluriel et que ça n'était pas une espèce de foule, une espèce d'entité homogène. Et dès lors qu'il s'agit de crowdfunding, on sait très bien, notamment avec la logique des trois cercles, qu'on ne s'adresse pas à une foule. On s'adresse déjà à des gens qu'on connaît, et puis ensuite des amis d'amis. Et puis, justement, le cercle problématique est celui des publics. Pourquoi problématique ? Parce que très souvent, les médias ne médiatisent que les projets qui fonctionnent. Moi, je m'interroge toujours sur le nombre de projets qui ne fonctionnent pas. Et puis, sur les projets qui ont levé des fonds énormes, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors que les plateformes, je pense, ne fonctionnent et fonctionnent par le biais des petits dons et pas sur ceux qui sont médiatisés. Donc on a ces deux versants de crowdsourcing, crowdfunding. Et pourquoi je disais qu'ils étaient problématiques ? Deuxième point, parce qu'ils ont été définis, c'est des néologismes anglo-saxons qui ont été définis pas seulement, mais en particulier par quelqu'un comme Jeff O., et qui, dès le début, voit dans ces logiques de participation une logique d'intermédiation. C'est-à-dire, non pas considérer que cette participation va être une alternative aux industries culturelles, mais va être un intermédiaire, un nouvel intermédiaire, et va permettre de faire le lien entre ce que désirait le public, ce que peut créer le public, et puis... les industries, les institutions culturelles déjà en place. Et donc je reviens sur ces termes parce qu'ils me paraissent importants. Ils permettent dès le départ de montrer qu'on est dans une volonté de non pas de transformer le système, mais d'intégrer le système de manière un peu différente. Et c'est ce qui renvoie à ce que vous disiez en introduction. Retracer. La place de ProArty, c'est ce que vous disiez, un peu une deuxième génération. La première plateforme en France qui s'est fait connaître, enfin, qui a été médiatisée, c'est My Major Company, qui avait en plus au départ, et qui était l'une des seules à faire ça, notamment avec le cas Grégoire, qui est un espèce de cas emblématique, de rétribuer financièrement les gens qui avaient donné. Logique qu'on retrouve d'ailleurs dans le crowdlending et dans les logiques d'investissement. Mais je voulais y revenir par la suite, puisque ça me paraît être un enjeu important, à savoir que, c'était plus mon point de conclusion que de départ, mais que la culture est finalement un espèce de terrain d'expérience, de terreau d'expérience pour d'autres expériences sociales beaucoup plus importantes. Et on voit... si en nombre les projets culturels sont plus importants en termes de chiffres, c'est l'investissement aujourd'hui qui génère des montants considérables.
Et pas la participation, disons, gratuite ou
Pas tellement.
D'accord. Okay.
Et là aussi, si on revient sur les termes, pour avoir fait une espèce d'état de l'art de la littérature, aujourd'hui le crowdsourcing perd de son importance. Il y a eu un moment, notamment dans les années 2000, où cette participation, ce crowdsourcing, ce faire ensemble était d'actualité. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est le crowdfunding. Et on est passé aux modalités de financement qui deviennent plus importantes que finalement ce que vous disiez un peu tout à l'heure, que le projet lui-même. Donc moi, ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'est cette possibilité d'alternative. Parce qu'au début, quand ces plateformes se sont montées, il y avait un peu de ça. Il y avait cette idée, puisque vous n'arrivez pas à intégrer les industries culturelles classiques, et on peut mettre ça en lien avec je dirais pas la naissance, mais en tout cas l'investissement d'Internet, où on va être jugé par ses pairs, où on va produire du contenu, où on va valoriser ses contenus et médiatiser ses contenus par le biais d'Internet avec des plateformes qu'on crée pour pour la cause, et puis sur le plan juridique aussi. Hein,
Et ça, ça s'est jamais vérifié, ça, pardon. Ça s'est jamais vérifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment où effectivement, ce type de financement a pu créer, a permettre d'émerger des choses un peu plus, je ne sais pas, radicales, bizarres, hors normes, qui échappaient à une industrie culturelle et une industrie musicale notamment, qui était à ce moment-là très en crise aussi. C'est qu'un moment où justement l'argument de l'industrie musicale était de dire Internet, effectivement on continue à vendre beaucoup d'albums, de gros trucs, mais on ne peut plus investir dans les petits machins. Et donc du coup ces plateformes, on a l'impression qu'elles sont arrivées en disant bah ouais, mais nous justement on va pouvoir faire le travail que ne fait pas l'industrie musicale, que ne fait plus. Et ça n'a jamais pu vraiment exister, ça.
Si, si, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que là je faisais un panorama des plateformes. Après, il y a trois acteurs. Il y a les plateformes, les porteurs de projets et puis les financeurs. Du point de vue des porteurs de projets, évidemment, c'est un peu une chance de médiatiser un projet qu'on ne pourrait pas médiatiser de manière classique. Et ça permet, éventuellement si ça fonctionne, de permettre à un projet d'exister. Et du coup, pour avoir interrogé un certain nombre de porteurs de projets, ce qui ressort, c'est la liberté du porteur de projet. Il fait ce qu'il veut. Là aussi, il faudrait définir ce qu'on entend par projet. Très souvent, c'est une partie du projet qui est financée, ce n'est pas l'intégralité. Donc, c'est pas, si on prend l'exemple du disque, on finance pas de la production jusqu'à la mise en rayon, on finance le master, on finance une partie du projet, et les porteurs de projet insistent sur cette liberté qu'ils ont du coup à gérer comme ils le veulent le projet. Du coup, ils gardent le contrôle de leur projet, et évidemment, ce que vous évoquez, c'est que cette mise en cette alternative qui a été posée a été récupéré plutôt financièrement par le rachat de certaines plateformes, par l'investissement dans certaines plateformes de ces acteurs classiques des industries musicales et de ces industries de la culture. Là aussi, il y a un certain nombre de plateformes qui mettent en place des partenariats avec des banques, avec un certain nombre d'acteurs classiques. Donc, moi, une des questions que je me pose aussi, ce qui recoupe un peu la vôtre, c'est cette logique éditoriale qui est mise en place, à part des plateformes comme les plateformes américaines du style Indiegogo qui acceptent tout type de projet. En France, la logique est plutôt une logique éditoriale où il y a un projet sur trois qui est retenu lorsqu'il est proposé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on retrouve du coup une logique assez connue, hein, assez classique des industries culturelles, c'est-à-dire une logique d'étranglement. Ensuite, vous l'avez signalé, un des points et un des facteurs majeurs, c'est de la communauté. On apporte une communauté et on apporte du coup potentiellement des financeurs. Et du coup, on est plus vraiment dans une forme d'alternative, mais plutôt dans une forme d'intégration, ce qui nous repose un certain nombre de questions, notamment lorsqu'on voit se mettre en place des partenariats. En tout cas, moi je m'interroge là-dessus, des plateformes comme TuscoPro, qui ont des partenariats avec Arte, qui ont des partenariats... Je me demande comment s'effectue, du coup, très naïvement, la sélection des projets. Est-ce que ces plateformes ne sont pas des viviers qui vont permettre d'avoir accès à des contenus, et des contenus beaucoup plus importants que ceux que eux pourraient financer ?
Et est-ce que, selon vous, elles permettent de pallier un désinvestissement des institutions culturelles et leur fonds de financement ?
Alors, c'est une question du projet, de notre projet. Les acteurs des institutions culturelles vous diront que non. Vous diront que
c'est bizarre, ça.
Ce n'est qu'un complément par rapport aux offres qui existent. Néanmoins, La raison pour laquelle on se pose la question, c'est que de plus en plus, les institutions culturelles s'intéressent à ce type de financement. Qui plus est, elles mettent, si dans un premier temps, elles externalisaient, elles ont passé par d'autres plateformes, aujourd'hui, elles mettent en place leur propre plateforme et leur propre système de collecte d'argent.
D'accord.
Le Louvre, par exemple, avec son passage au numérique. Et s'ajoute à nouveau la question juridique. En France, c'est possible parce qu'il y a eu un certain nombre d'actions politiques dans ce sens. Hein, Fleur Pellerin a largement communiqué sur ces questions-là. Et donc, notamment la question du mécénat, la possibilité, lorsque vous allez mettre de l'argent, notamment pour valoriser le patrimoine, d'avoir une réduction fiscale.
Alors, Marianne Dujarrier, on reviendra sur vos questions. Marianne Dujarrier, alors, on essaye de procéder par strates, toutes se rejoignant. Comment est-ce que les questions qu'on vient d'évoquer, comment elles intègrent cette espèce de magma compliqué à délimiter, qui est celui d'une idée, alors de la participation, vous allez dire que ce terme-là, vous êtes un peu étranger, mais par exemple de ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui n'est déjà pas la même que l'économie du partage, bon voilà. Comment est-ce que ça, ce dont on parle, s'intègre dans cette espèce de magma plus large, tout en se différenciant d'autres pratiques?
Bien, bonsoir, pardon, je vais tirer le fil. Voilà. Peut-être déjà dire le point de vue que je vais prendre, qui est celui d'une sociologue du travail. Donc, vous allez voir que je penche vers la question du travail en permanence, et c'est vers là que je vais vous emmener. Et sociologue aussi, c'est important de le préciser, parce qu'il me semble qu'un des intérêts de la sociologie, c'est de commencer à questionner ces catégories de pensée. Hein, qu'est-ce que c'est que, par exemple, l'économie collaborative qui fait un peu slogan aujourd'hui, ou même cette notion de participation. On va prendre ces mots avec un peu de prudence pour tenter de voir ce qu'il y a dedans. Il me semble que dans participation, si on le prend au premier niveau, hein, il y a l'idée d'abord de faire quelque chose. Faire quelque chose, ça nous renvoie donc à l'activité. Et donc, très vite, à la question du statut de cette activité, de son éventuelle création de richesse, de son éventuelle rémunération, etc. Donc vous voyez, je vais très vite vers la question de l'emploi et peut-être même plus généralement du travail. Peut-on dire que quelqu'un qui passe l'aspirateur chez lui participe aux tâches domestiques? On peut employer le mot participation, on est dans l'activité là. Et puis participation renvoie aussi au champ politique, qui est l'idée de pouvoir dire son mot, de pouvoir donc intervenir dans le champ de la régulation sociale. Et là, on est donc davantage dans la question des rapports de pouvoir et d'influence réciproque. Alors, en réalité, moi, le mot participation, je ne l'emploie pas du tout. Donc, je me demande ce que je fais à cette table ronde, mais vous allez me le dire. je ne l'emploie pas parce que, bon, il me semble que ce n'est pas un concept très, très utile par rapport à ce que j'essaye de faire pour le moment. Moi, j'ai surtout travaillé, en fait, sur l'idée que les consommateurs, de plus en plus, produisent, ou plutôt coproduisent, ou contribuent à produire une partie des services qu'ils consomment. Moi, j'avais écrit ça il y a maintenant une dizaine d'années. Le phénomène ne s'est pas du tout replié, au contraire. Hein. Vous connaissez tous à la fois les bornes interactives de supermarchés, de cinéma, d'aéroports et de tout ce qu'on appelle le ticketing, où vous fabriquez vous-même votre billet, mais aussi toutes les contributions volontaires ou pas que vous laissez sur le web. En surfant ou en postant directement des vidéos, des commentaires, des opinions, des vlogs, des textes, etc. Autant d'éléments où on pourrait dire que vous participez, ou plus exactement vous contribuez, le plus souvent pour le bénéfice de plateformes, des plateformes elles-mêmes. Alors, dans mon souci de questionner un peu les catégories sociales dominantes, pour ma part, je me suis un peu penchée sur ce qu'on appelle économie participative ou collaborative, et je proposerais bien de les ranger, si vous voulez bien, dans 4 catégories. C'est un peu grossier, mais enfin, ça permet d'y voir un peu plus clair. Et vous verrez que dans ces catégories, on retrouve nos idées de travail et de démocratie. En fait, ça ressemblerait à une petite matrice. vous avez des plateformes numériques qui sont à but lucratif. Donc on est, je dirais, dans une logique de capitalisme classique. Les revenus étant tirés, les revenus et dividendes étant tirés essentiellement du marché de la publicité, c'est-à-dire à la fois la possibilité de mettre des publicités sur le site et par ailleurs de revendre les données personnelles des internautes, et parfois aussi, ce serait d'ailleurs une question que j'avais à Arty, hein, quel est votre business model, votre modèle d'affaires, comme on dit, et aussi par des commissions prises sur les échanges qui sont faits sur la plateforme. Deuxième, donc vous avez des plateformes à but lucratif.
Ça, les exemples de ça, c'est quoi ?
J'arrive parce que je vais y croiser.
Ah, okay, pardon.
À but lucratif et puis d'autres à but non lucratif. Et puis on peut croiser ça avec un deuxième critère qui est marchand ou non marchand. Les échanges marchands ou non marchands peuvent être des symboles, des textes, peuvent être des biens, peuvent être des services et peuvent être du travail, des tasks ou des tâches. Hein. Voilà, alors si on s'amuse à croiser ça, vous avez dans les plateformes capitalistes qui font des échanges marchands, typiquement Airbnb, Uber, qui sont là des modèles, on pourrait dire, de marché qui permettent de faire rencontrer une offre et une demande instantanément. Et on voit bien que là, la participation, j'ose pas employer ce terme-là, à la fois des utilisateurs et des travailleurs, puisqu'il faut les appeler comme ça, s'apparente effectivement davantage à un travail qu'à de la participation à proprement parler. Et d'ailleurs, les mouvements sociaux de ces travailleurs portent essentiellement, outre la question de la finance, sur le peu de mots à dire qu'ils ont dans l'organisation de ces plateformes. Donc on voit bien qu'elles ont, on pourrait dire, du point de vue des travailleurs, un défaut démocratique. Donc là, on parlera plutôt de travail que de participation, évidemment. Dans le deuxième croisement, donc les plateformes non marchandes à but lucratif, vous les connaissez également, c'est typiquement Google ou Facebook, où ce qui s'échange est gratuit. Mais la plateforme a bien un but capitalistique, soit de création de dividendes, soit d'augmentation de son capital. Là, les contributeurs n'ont pas le sentiment de travailler, même s'ils contribuent bénévolement à enrichir une plateforme. Ils ont plutôt le sentiment de partager, d'échanger. Je ne sais pas s'ils diraient participer, je ne crois pas. Si on croise ensuite le marchand non lucratif. Là, on va être sur des plateformes plutôt militantes, associatives ou de services publics qui permettent à des gens d'échanger des biens, des services, des symboles, etc. Dans ces cas-là, on va parler plutôt d'utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent ces plateformes le voient vraiment comme un outil d'échange. Le but n'étant pas que la plateforme s'enrichisse à partir de ces échanges, même si ces échanges peuvent être monnayés et marchands. Je prends un exemple très simple. Le site internet de Pôle emploi ne vise pas à faire une plateforme lucrative, mais ils échangent du travail payant, donc c'est vraiment un échange marchand. Mais le but de Pôle emploi n'est pas, à ma connaissance, de revendre sa plateforme et de faire une pirouette financière. Alors là, on est plutôt avec des utilisateurs, vous voyez, que des participants, si je puis dire. Et puis ensuite, c'est la dernière case, donc le non marchand lucratif. Bon, le symbole évident, c'est Wikipédia. On n'achète pas les articles que l'on lit, on ne vend d'ailleurs pas le fait de les écrire, et la plateforme dit ne pas aujourd'hui ne pas vouloir en tirer de bénéfices. Notez que ce modèle-là peut migrer brutalement vers le non-marchand à but lucratif. Ça fait très mal dans ces cas-là. Ça s'est passé par exemple avec le Huffington Post, où des gens ont contribué à faire des articles gratuitement. Ça a créé une valeur finalement pour le site qui s'est vendu plusieurs centaines de millions de dollars. Et les contributeurs se sont dit, mais ça vaut tant d'argent que ça, le travail gratuit que nous avons fourni. Donc on peut avoir des déplacements comme ça brutaux qui interrogent. Dans ce modèle non marchand à but non lucratif, il me semble peut-être on pourrait parler de participation lorsqu'il s'agit de sites un peu à orientation politique ou culturelle, ou plutôt de contribution. Je pense que c'est plutôt le terme qui conviendrait. Et vous voyez, là, on est dans la case plutôt de la participation démocratique qui n'a à peu près rien à voir en réalité avec la première case que j'ai décrite, les Uber et Airbnb, etc., qui là est une extension du modèle capitaliste néolibéral dans sa grande pureté. Là, donc dans la première case, on serait plutôt du côté du travail, dans la dernière, plutôt du côté de la démocratie. On retrouve d'ailleurs les deux grandes origines d'Internet, qui étaient les origines d'une part, on va dire, militaro-industrielle et d'autre part, démocratique et,
universitaire.
Et oui, ou j'allais dire hippie un peu, vous voyez, dans cette mouvance de on va tout partager, on va faire du commun, etc. Les universités étant ambiguës sur cette question. Voilà, très rapidement, pour ne pas répondre à votre question, non, parce que j'ai bien conscience que je n'y ai pas répondu. J'ai des questions.
Ah bah vas-y, poser. Vas-y, à travers.
Parce que je suis sociologue, alors je suis aussi obsédée par la question des acteurs. Vincent disait tout à l'heure qu'il y avait trois grands acteurs, hein, la plateforme, les porteurs de projets et les contributeurs. Moi, dans les analyses de cas que je fais, alors elles portent plus sur le marchand à but lucratif, hein, notamment je m'occupe des bricoleurs, hein, des gens qui peuvent venir chez vous pour 6 euros, vous changer une ampoule ou repeindre un mur. Repeindre un mur, c'est un peu plus cher. Là, on a donc un échange de services ou de travail avec des plateformes qui ont un but lucratif. Quand on regarde un peu en détail, il y a beaucoup d'acteurs autour de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez la plateforme, mais dans la plateforme, vous avez des actionnaires qui ne sont pas les mêmes que les dirigeants. Et quand on regarde les actionnaires, on retombe quand même beaucoup sur des actionnaires institutionnels. Enfin, on retombe, je dirais, dans la bonne vieille économie qu'on connaît bien. Les dirigeants de ces plateformes sont en général des jeunes gens issus des grandes écoles françaises ou internationales. Donc on a aussi un profil sociologique assez homogène. Vous avez également un acteur central, vous l'avez cité maintes fois, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État qui subventionne la création de ces entreprises, de ces start-up. L'État qui défiscalise un certain nombre de choses, vous l'avez dit aussi, voilà, et qui a un rapport très, très ambivalent à toutes ces histoires d'économie collaborative.
Et quelle conclusion vous en tirez de ça, si on retrouve des acteurs classiques et l'État, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est pas une nouvelle économie?
Oui, c'est une nouvelle économie, c'est certainement pas ce que je dirais. En tout cas, c'est une nouvelle technologie, c'est incontestablement, qui a des usages sociaux extrêmement différents, voilà, dans lequel on retrouve les acteurs classiques de la société. C'est pas étonnant. Mais au fond, oui, non, c'est une nouvelle technologie dont des acteurs s'emparent pour faire des choses très différentes, dans la continuité d'ailleurs de ce qu'ils faisaient avant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Vincent Rouzet pour dire qu'il y a beaucoup de pratiques qui préexistaient à ces plateformes numériques. Là où il y a une rupture technologique, c'est ce qu'on appelle les places de marché, c'est-à-dire la capacité de mettre en lien immédiatement, instantanément, une foule, alors là pour le coup une foule d'anonymes, hein, qui offre des services avec une foule d'anonymes qui en demande. Ça, c'est vrai que c'est complètement nouveau, parce que le changement de taille est un changement de nature quand même dans le fonctionnement des systèmes. Et la nouveauté, c'est l'irruption de ces intermédiaires, qui d'ailleurs ne cessent de proclamer qu'il n'y a plus de médiation, alors qu'en réalité évidemment il y en a une, et ces intermédiaires dont on voit bien qu'ils ont des projets différents selon qu'ils ont le projet de gagner de l'argent par cette intermédiation. Ce serait une question que j'aurais pour vous, hein, Marie, est-ce que comment vous rémunérez, est-ce que c'est à but lucratif ou pas, parce que je pense que ça donne pas les mêmes non plus les mêmes projets culturels, peut-être, vous me direz, et d'autres qui utilisent l'outil dans des buts non lucratifs, comme on peut le faire avant le numérique, où on pouvait échanger des choses sans le monétiser ou sans en chercher à en tirer un profit, quoi.
Peut-être que Marie, vous pouvez peut-être répondre à la question de Marianne.
Très intéressant. Alors, je dirais que ProArty, alors vous allez me dire si je me trompe, hein, c'est marchand non lucratif. Parce que donc ProArty, c'est un fonds de dotation qui est donc à but non lucratif et d'intérêt général, dont la vocation principale est de collecter des fonds et de les reverser à des projets d'intérêt général dans le champ défini par ses statuts. Et donc, pour ProArty, c'est le soutien de la création artistique et la diversité culturelle. Donc il n'y a pas de... Alors, on est souvent assimilé aux autres plateformes qui sont, elles, à but lucratif, parce qu'on a le même modèle économique, à peu près, on va dire, qui est de prendre 8% sur les dons collectés. En général, c'est ce qui se fait. Il y a des plateformes qui prennent un peu plus, d'autres un peu moins. La plupart des plateformes en dons sont à 8, mais enfin, en tout cas, les grosses sont à 8. Et MyMajor a été à 10, je crois, d'ailleurs. Ouais. Et c'était la seule, oui. Ah, nous, on a commencé à 10 parce que, comme on est, on a aussi un service par rapport à l'émission de reçus fiscaux, etc. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que c'était difficile d'être au-dessus des autres plateformes. Donc, on est à 8%. C'est un modèle économique qui est assez fragile, parce que 8% sur les dons, c'est peu. Et donc, il y a beaucoup de plateformes qui diversifient aussi elles aussi leurs ressources, qui ont des modèles complémentaires, qui sont adossés à d'autres sociétés. Ou, par exemple, donc My Major Company avait un label. Nous, on a une autre activité qui est notre activité de formation. On accompagne aussi en production.
Former quoi, pardon?
Bah, on forme au financement participatif, j'en parlais tout à l'heure, au financement participatif, au mécénat culturel d'entreprise et financement participatif. Et on a un autre modèle qui est... un autre complément de revenu, on va dire, qui est en train d'émerger depuis un an ou deux, c'est justement les partenariats avec les institutions. Parce que c'est vrai que donc on a lancé ProArty, on a eu pas mal de projets, puis on a commencé à rentrer en contact avec les institutions traditionnelles du financement de la culture qui commencent à s'y intéresser. Et ça a été très intéressant de voir comment on pouvait... combiner un petit peu nos champs de compétences et notre expertise pour accompagner des projets.
Et c'est quoi ? Donnez un exemple ça, de partenariat institutionnel.
Alors, on a deux... La plupart des partenariats se ressemblent. Le premier qu'on a lancé, c'était avec une collectivité, donc avec Rennes Métropole, qui est venu nous voir donc, il y a 2 ans pour nous dire qu'il souhaitait lancer un appel à projet de financement participatif sur leur territoire pour accompagner les acteurs émergents locaux qu'ils n'arrivaient pas à saisir et à accompagner dans le cadre de leur dispositif classique de soutien à la culture. C'est-à-dire que, en fait, eux, ils ont leur subvention classique. Ils ont dit, nous, on ne veut pas toucher les mêmes acteurs que ceux qu'on touche avec nos subventions. On veut s'adresser aux émergents et à la jeune création. Donc, on a conçu ensemble un appel à projet qui s'appelle la Dynamo Culturelle, un dispositif, où, en fait, on a lancé un appel à projet sur le territoire de Rennes Métropole. Où tout projet porté par un porteur de projet local, donc à Rennes Métropole, qui n'a pas été soutenu par ailleurs par Rennes Métropole, qui n'a pas eu de subvention et qui souhaitait faire une campagne de financement participatif, pouvait candidater. Et ensuite, nous, on venait, donc tous les projets sélectionnés, on est allé les accompagner. Donc ça, c'est très important parce qu'on parle souvent des plateformes créées par l'institution, par les collectivités, etc. Là où ça a été assez innovant, en tout cas dans le secteur culturel, c'était vraiment cette volonté de miser sur l'accompagnement, de se dire, voilà... et je pense que c'est aussi un petit peu la clé du financement participatif. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la capacité à aller lever des fonds qui va déterminer le succès d'une campagne. Donc si on se lance sans être accompagné, si on ne sait pas comment ça fonctionne, on peut vite être perdu et la campagne peut échouer. Du coup, c'est pour ça qu'on est allé, sur le territoire, on a formé tous les projets qui ont participé à l'appel à projet. Ensuite, toutes les campagnes se sont lancées en même temps. Et Rennes Métropole et la Caisse des dépôts locales, ça c'était la première année, ont remis des prix aux collectes qui se distinguaient. Voilà, et donc ça a été la première opération qu'on a lancée. On a lancé une autre cette année avec Bordeaux, un petit peu dans le même esprit, donc la jeune création bordelaise avec une dizaine de projets qui ont été accompagnés. Et récemment avec la SACEM, qui pareil s'est dit, voilà, nous on a nos dispositifs classiques, on a envie de lancer on s'intéresse au financement participatif, on a envie de lancer un nouveau dispositif qui va s'adresser à des nouveaux acteurs, enfin à des nouveaux, d'une nouvelle manière aux artistes, et donc on a créé un dispositif qui s'appelle Mise en œuvre, où l'idée c'est d'aller soutenir des interprètes qui souhaitent passer commande à des compositeurs. Donc aujourd'hui, il y a très peu, à part la commande d'État, il y a très peu de dispositifs qui permettent de financer la commande en écriture. Et donc on a lancé Mise en œuvre. Et l'idée, donc, c'est tout interprète, donc tout ensemble, orchestre, qui souhaite passer commande à un compositeur, pouvait envoyer une candidature qui a été soumise à validation par la commission de la musique symphonique de la SACEM. Et on a fait une formation individuelle pour chaque projet qui s'est lancé dans le cadre de l'opération. Et ensuite, la SACEM vient abonder les campagnes à hauteur de 50% de l'objectif tout au long de la campagne.
Mais il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans, c'est qu'il me semble que la promesse, alors peut-être que je suis naïvement victime du marketing, il me semble que la promesse, c'est de changer ou de bouger un petit peu le rapport entre l'œuvre et son public, en permettant un rapport plus direct, justement de participation, d'aide, etc. Et en fait, en vous écoutant, j'ai l'impression que ça ne bouge pas énormément. Ou alors, est-ce que vous avez des moyens d'évaluer justement, et qu'est-ce que ça change, le fait que, je sais pas, que quelqu'un, voilà, mette un peu d'argent dans la production d'une œuvre? Est-ce que ça crée un engagement plus fort, une défense, j'en sais rien, quelque chose comme ça, mais...
Alors, je pense que déjà les artistes avec qui on discute, qui font des campagnes, disent que c'est vraiment pas une tâche facile. Ça, c'est sûr, que aller solliciter le public, et surtout dans cette culture française où on a du mal à parler d'argent, tout ça. Je pense que puis ça demande beaucoup d'énergie et de temps de faire une campagne de financement participatif. Mais à la fin, ce qu'ils retiennent tous, c'est en fait, je pense que la plupart des artistes, quand ils se lancent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne s'attendent pas du tout à mobiliser autant de monde et à voir la réaction des gens. En fait, c'est jamais ceux à qui on pense qu'ils vont donner déjà. Et en fait, ça donne quand même un sentiment de solidarité et aussi de valorisation du travail qu'on fait, une reconnaissance du travail par le public. C'est quand même... et autrement que par venir à un concert ou acheter un album, qui est quand même très valorisant et qui apporte quand même beaucoup au projet, qui va apporter sur la communication. Et je voulais quand même réagir deux secondes sur l'intermédiaire, le fait de dire que la plateforme reste un intermédiaire. Je suis d'accord, mais d'un côté, je trouve qu'avec le financement participatif, il y a quand même quelque chose qui est apparu. C'est la transparence sur les projets. C'est-à-dire que, même je le vois dans le... Avant, j'ai travaillé un petit peu à la Fondation de France, même dans la solidarité, on le voit. C'est-à-dire que avec le financement participatif, on finance des projets et on découvre un projet, on va vivre une expérience parce qu'on va avoir peut-être une contrepartie, on va créer une relation nouvelle avec l'artiste. Et c'est vrai que même s'il y a un nouvel intermédiaire, on sait exactement, peut-être même à l'euro près, à quoi va servir l'euro qu'on va donner à l'artiste. Et je pense que c'est là où il y a quand même quelque chose d'intéressant et qui casse un petit peu l'idée de l'intermédiaire, c'est que c'est vraiment très 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 concret. Et j'ai l'impression, alors peut-être que vous allez me dire que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avant, quand on donne au système tel qu'il a pu exister, quand on donne à une association et on ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire du don, ou quand on donne, on soutient une major, là il y a vraiment un côté, l'artiste il me dit que son projet coûte tant, qu'il a besoin, qu'il va trouver tant d'argent avec telles institutions, qu'il a besoin de tant d'argent en financement participatif, et que cet argent va servir à financer exactement la table que vous voyez sur scène, quoi. Donc ça c'est quand même très intéressant, je trouve, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, je pense. C'est puis aussi une autre chose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent, en tout cas dans la culture, qui ne travaillent pas dans le secteur culturel, qui s'intéressent beaucoup au secteur culturel, mais qui ne savent pas du tout les logiques, qui ne connaissent pas du tout les logiques de production, et qui, grâce aux campagnes, vont découvrir combien coûte la création d'un disque, la création d'un spectacle, etc. Et va vraiment découvrir le fonctionnement. Ça, je trouve que c'est assez intéressant.
Vincent Rosé, une réaction à ce qu'il vient de dire Marie Tretiakov, il y a au moins trois choses, mais enfin.
Oui, il y a même beaucoup de choses là-dedans. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question des porteurs de projets, parce qu'évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce glissement aussi des métiers. C'est-à-dire que j'ai toujours eu beaucoup de mal, même si on le fait, mais quand on est musicien, pourquoi on devrait devenir un communicateur et comment on devient un bon communicateur? Puisque finalement, ce qui ressort aussi des nombreux entretiens que j'ai pu mener, c'est principalement un travail de communication, c'est-à-dire qu'il faut activer de manière régulière sa base, il faut produire des vidéos, des trailers régulièrement pour montrer où on en est. Donc là aussi, il y a un vrai boulot. Ce que vous disiez tout à l'heure, si on ne s'investit pas de manière régulière, on n'a aucune chance que le projet aboutisse. Donc il y a déjà la question des compétences. Demander, et pour avoir interrogé des gens, par exemple, il y en a qui ne savent pas faire de vidéo. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas faire de vidéo? Alors, parallèlement à ça, il y a un effet de normalisation des plateformes. C'est-à-dire qu'au début, pour avoir examiné un certain nombre de projets, un peu d'originalité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans des phénomènes et dans des logiques de standardisation où vous avez les FAQ qui vous expliquent ce qu'il faut faire. Au premier jour, il faut faire ça. Au deuxième jour, il faut faire ça. Au troisième jour, il faut faire ça. Il faut produire une vidéo au quatrième, etc. etc. Et donc, on a une espèce de formalisation, de normalisation de la communication et de la communication sur les projets. Donc voilà, il y a la question des compétences, la question de l'artiste transformé en communicant, où finalement on peut s'interroger sur qu'est-ce qui est le plus important, et c'est le fait de communiquer ou d'avoir un projet intéressant et une esthétique intéressante, ce qui répond en partie à la question que vous posiez tout à l'heure. Ensuite, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, et ce glissement, je trouve aussi, de la création, ce que j'appelle le glissement de la création à la créativité, qui va de pair avec le glissement des industries, enfin pas le glissement, mais en tout cas ce qu'on a accolé aux industries culturelles et créatives depuis le milieu des années 1990, notamment en Grande-Bretagne, pour valoriser des pans entiers de l'industrie, notamment le sport, la gastronomie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi, sous couvert de participation, cette idée que tout le monde est créatif. On a hier des activités qu'on appelait des activités manuelles qui s'appellent aujourd'hui et qui ont été rebaptisées des activités créatives. Et vous allez dans les rayons d'activités, vous pouvez acheter plein de trucs créatifs. Ce qui veut dire qu'on a cette suggestion que nous sommes tous potentiellement créatifs. Et donc, de là, il est très facile de passer du créatif à je vais participer. Puisque je suis aussi un créatif. Donc on a cette mise en stratégie, finalement, des logiques créatives et de cette manière, finalement, de... Là, je fais toujours référence à Deleuze, de cette société de contrôle, du passage de l'injonction « il faut faire ça » à la suggestion. Aujourd'hui, personne ne vous oblige ni à donner, ni à faire un trailer, ni à faire ce que vous voulez. Non, parce que si vous voulez que ça marche, eh ben, il faudrait bien faudrait le faire. Et donc, je trouve qu'il y a ces trois phénomènes-là, hein, de créativité, de transfert des compétences où il faut qu'on devienne des communicants, et des bons communicants, et puis créer. Donc, c'est peut-être que c'est ce qui permet de rebondir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que du coup, on a un intérêt peut-être plus grand aussi pour financer, voir comment ça marche, parce que moi, peut-être que demain, j'aurai la possibilité ou l'envie de passer par ces plateformes.
Marianne Dujarrier, vous voulez...
Pas spécialement, je réalise que je ne parle pas du tout de culture et donc je suis un peu en décalage, mais je ne connais pas les plateformes culturelles spécifiquement. Donc, non, y a un mot qui m'a fait lever l'oreille et qui me semble important, c'est la question des métiers. C'est-à-dire que sur ces plateformes dites participatives, collaboratives, etc., on s'aperçoit qu'il y a une mise en concurrence, si je peux y parler ainsi, en fait, quand il s'agit de travail, des amateurs et des professionnels. C'est d'ailleurs les revendications, des premières réactions des taxis quand Uber est arrivé, en disant, mais attendez, nous, on est des professionnels, ce sont de vulgaires amateurs. Et voilà la puissance de ces places de marché qui mettent, encore une fois, en relation une foule d'offres et une foule de demandes, le fait sans distinction, pas toujours en tout cas, et met donc en concurrence non seulement les salariés, enfin les travailleurs professionnels entre eux, mais aussi avec les amateurs, mais aussi avec des gens qui ont des revenus par la redistribution, notamment les retraités, les étudiants boursiers lorsqu'ils le sont, etc. Donc on va avoir, par ces systèmes-là, et j'imagine que c'est pareil dans la culture, une indistinction totale des statuts, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est le service que l'on propose ou le bien que l'on veut échanger qui compte et pas du tout le statut de la personne, au risque donc que les choses s'échangent en toute indifférence du statut de la personne, ce qui évidemment peut poser des problèmes d'inéquité majeure. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entrepreneur qui a des statuts, paye des impôts, paye l'URSSAF, etc., va se retrouver en concurrence avec un retraité qui bricole comme ça. Je parle encore de mes bricoleurs parce que c'est mon domaine. Voilà, ils vont se retrouver sur une même tâche, éventuellement en concurrence sur la plateforme, alors que leurs statuts sont complètement différents et leur besoin de manger est complètement différent.
Aussi. Mais ces plateformes se défendent en disant « mais oui, mais nous, on ouvre le marché à ceux qui ne pouvaient pas y accéder jusque-là ».
Oui, leur principal argument, si elles ne sont pas attaquées, donc elles n'ont pas vraiment à se défendre, mais leur argument principal, c'est de dire qu'elles déblaquisent, pour reprendre leur terme, elles déblaquisent le marché, c'est-à-dire qu'elles rendent... C'est intéressant d'ailleurs, voilà, avant Internet, on avait déjà des gens qui venaient donner des coups de main, voilà, qui ont donné un billet ou pas, ou il y avait une sorte de don contre don comme ça. Là, c'est d'une certaine manière une explicitation de ces échanges, des coups de main qui sont donnés par les cousins, le copain, le voisin. Là, c'est rendu par une foule possible. Hein. Et donc, leur argument à ces fondateurs de plateformes, c'est de dire que ça réduit la part du marché noir hein, qui existe sur ces marchés-là. Mais on est bien loin de la culture.
Non, mais juste. Oui. Allez-y.
Oui, non, je voulais dire que par rapport à cette indifférenciation, dans le milieu de la culture, il y a quand même trois. J'avais identifié trois espèces de sociotypes des porteurs de projets, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels ou des gens qui ont déjà un réseau, qui sont déjà. Inscrits dans un réseau culturel de financement, etc. Il y a ensuite des amateurs ou des gens qui font ça sans autre arrière-pensée que de monter leur projet, des gens qui sont un peu intermédiaires. Et puis une dernière catégorie qui était très intéressante, qui était les gens qui montent des projets, mais en vue de le placer sur leur CV et de se faire embaucher... plus tard. Donc il y a comme une espèce de carte de visite. Moi, j'ai réussi à monter ce projet, à fédérer une communauté d'autant de personnes, à générer un montant d'autant. Et donc,
c'est que ça devient une compétence en soi.
Du coup, ouais. Voilà. Et il y a pas mal d'agences de com, d'ailleurs, qui développent du soutien, voire du montage de projet complet. J'avais vu ça dans la table ronde. On avait des invités, la table ronde que mes étudiants avaient organisée l'an passé. Et donc ça devient un métier en soi. Et donc je parlais de communicants. Et là aussi, les discours ne sont pas très clairs. C'est-à-dire que les plateformes sont ouvertes à tout un chacun. Il me semble que de plus en plus, puisque vous parliez de deuxième génération, on a un basculement vers de la professionnalisation, de la normalisation. Et puis... du coup, une logique qui n'est absolument pas alternative, mais une intégration dans des logiques classiques capitalistiques.
Marie Tretiakov, puis peut-être on ouvrira les questions là, ça.
Oui, nous, on se pose quand même on se pose ces questions-là au quotidien aussi, parce que parfois, on va avoir un projet qui va se présenter à nous avec un super beau budget, avec la rémunération artistique, de l'équipe artistique, les droits d'auteur, etc., etc. Et parfois, on va avoir des projets... il y a juste le minimum du minimum, c'est-à-dire à la limite le décor quand c'est un spectacle et pas de rémunération pour les artistes qui travaillent beaucoup de temps sur le projet, pas de droit d'auteur, rien du tout. Donc c'est vrai qu'on a quand même cette question qui se pose. Je pense que faisant partie de cette deuxième génération de plateformes spécialisées, en fait aujourd'hui c'est vrai qu'on peut aussi dissocier les plateformes en tout cas dans le don des plateformes généralistes et les plateformes spécialisées. Nous on est spécialisés dans un secteur et donc on veut vraiment avoir un regard professionnel sur les projets. Et un projet amateur avec zéro salaire, zéro droit d'auteur, rien du tout, on ne va pas lui dire « ne viens pas ». Par contre, on va vraiment avoir une démarche pédagogique et on va essayer de voir aussi dans quelle démarche s'inscrit le projet. C'est-à-dire que si c'est vraiment dans une démarche de « je suis au tout début, c'est mon premier projet, mais mon objectif avec la campagne, c'est justement de me professionnaliser et de respecter la loi », on va apprécier ça différemment qu'un projet qui va faire un petit peu les choses n'importe comment. Donc c'est vrai que c'est des questions qui se posent dans notre secteur aussi.
Alors, il reste une vingtaine de minutes avant la seconde table ronde. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, des points de désaccord, des expériences ? Tout vous convient ? Madame ?
Bonsoir, merci pour tout ça. J'avais une question qui était, enfin, sur la participation. Bon, c'est très, votre sujet est très clairement la participation, le lien avec le financier, mais vous n'avez pas du tout abordé la question d'une participation plus gratuite, alors plus amateur, justement, le fait de participer à la construction même dans le contenu du projet, en tant qu'un amateur qui a envie de participer à quelque chose. Voilà, c'était. Alors, ce n'est pas une question très très claire, mais est-ce que c'est évacué? Est-ce que ça disparaît? Mais il me semble que Internet a eu un temps justement où cette adhésion, cette participation, qu'elle soit monétisée ou pas, quoi. Ce n'était pas cette question-là.
Dans le cas de.
Celui-là? Oui, c'est un peu ce que je disais au départ avec la question du crowdsourcing, puisque cette participation-là non financière existe bien évidemment toujours. Mais il me semble qu'aujourd'hui, elle est notamment au travers des discours, au travers des phénomènes de médiatisation, disparaît un peu derrière cette question du financement. Hein, et pour travailler, alors là, moi, plus sur la musique, j'ai l'impression de retrouver les débats qui avaient lieu, notamment à l'heure d'Internet, du piratage, et puis les discours tenus par les principaux acteurs des industries culturelles, où on avait l'impression qu'on était face à la mort de la culture face à la mort de la création, parce qu'on ne passait pas par cette logique-là et par ce système-là. Il me semble que cette question de la participation, là encore, je reviens sur mon point, elle existe avec le numérique, mais elle existe aussi sans le numérique. Et là aussi, on a des espèces d'effets, on a l'impression, enfin, en tout cas, face aux étudiants que j'ai chaque année, de révolution numérique, et on a l'impression que rien n'existait avant le numérique, ou que rien ne se faisait, ou se faisait différemment avant le numérique. Et il me semble qu'on est dans des effets de continuité et des effets de médiatisation qui effacent aussi des pratiques qui perdurent, qui existent. Et là, je reviens d'Afrique. Et toute la problématique en Afrique, outre la question de l'équipement, la question de pouvoir payer par carte bleue, de pouvoir payer, d'avoir un compte bancaire même, c'est la question de la confiance. Et toutes ces plateformes fonctionnent sur cette modalité de la confiance. Il y a un autre terme aussi qui n'a pas été évoqué, mais c'est la proximité. Lorsqu'on fait une vidéo, etc., il faut créer de la proximité. Alors c'est soit de la proximité locale lorsque vous financez ou vous participez à un projet, et des plateformes comme Ulule travaillent beaucoup sur cette question de la proximité. Ils font même une espèce de caravane nationale où ils vont faire des conférences pour inciter les gens à participer à des projets, à financer des projets en local.
Et Marianne, déjà,
alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais, ou en partie.
En partie, si. Mais c'était, est-ce que le numérique a justement changé fondamentalement les choses ou pas par rapport à ça? Même si, effectivement, le bénévolat, la participation, ça pouvait exister. Est-ce qu'il y a eu un basculement avec la question du numérique?
Si je poursuis dans mon idée de local et de proximité, personnellement, je ne trouve pas que ça ait transformé, parce qu'on avait la même question, alors là encore dans le domaine musical, lorsqu'il y avait MySpace, on avait, pour avoir étudié ça, et des collègues aussi, des centaines d'amis. Et lorsqu'on étudiait un peu qui étaient ses amis et qui étaient ceux avec qui on collaborait, c'était finalement des gens très locaux ou des gens... dans un territoire proche. Donc en ce sens, je trouve que le numérique peut-être permet à une plus grande échelle, mais lorsqu'on regarde réellement, les projets se font plutôt en local et des participations en local, pas que.
Oui, je suis totalement d'accord, et nous on fait aussi, on a mis en place des systèmes pour aller collecter des fonds le soir de représentation de spectacles, etc., et ça fonctionne très bien. Mais on a, on, je pose cette question, mais on s'est rendu compte, en fait, par exemple, le projet qu'on fait avec Rennes Métropole, comme l'idée, c'est d'aller soutenir les projets sur le territoire, on voulait aussi voir les donateurs du territoire. Et donc, sur tous les projets, on a compté, comme on demande l'adresse à tous les donateurs par rapport à la logique du reçu fiscal, on a décidé de faire apparaître le nombre de donateurs habitant en Rennes Métropole sur tous les projets qui participaient à l'opération. Et en fait, il y a moins de la moitié, je crois que c'est même moins d'un... Enfin, vraiment un tout petit pourcentage de donateurs qui sont locaux.
D'accord.
C'est intéressant. Et pareil, sur des financements de festivals, on a plein de donateurs qui ne sont pas sur le lieu du festival. Et on s'interroge, je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais c'est intéressant de voir que... En tout cas, sur Rennes, nous, on était persuadés qu'on allait avoir 80% de donateurs sur le territoire. Et ce n'est pas du tout le cas.
Il y a peut-être une explication. Il y a le principe de communauté aussi. Où j'habite plus la ville, mais j'ai un attachement particulier pour cette ville. On retrouve souvent ça, donc des communautés, soit religieuses, soit sportives, soit parce qu'on a habité, on a un attachement particulier. Peut-être que c'est un phénomène expliqué, un point explicatif.
Oui, je pense que c'est grâce au numérique et puis au fait qu'on puisse, enfin, toutes les personnes qui, au mouvement des personnes, et c'est intéressant aussi de remarquer que il y a beaucoup aussi de donateurs qui, enfin, en tout cas, ça c'est des retours qu'on a eu de porteurs de projets, et on espère pouvoir l'approfondir bientôt avec des chercheurs d'ailleurs, parce qu'on va essayer de faire une étude sur nos donateurs, envoyer des questionnaires pour faire une étude qualitative sur le don, et en fait, il y a beaucoup de donateurs qui ne vont pas voir les projets qu'ils soutiennent. Ça, c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a des gens qui sont loin, qui vont aller faire un don parce que peut-être que le projet leur a plu, peut-être qu'ils connaissent évidemment le porteur de projet. Oui, mais moi, je sais que par exemple, j'ai déjà soutenu des projets que je n'ai jamais vus et que je ne connais pas. Mais bon, je travaille pour une plateforme. Mais je ne sais pas, je trouve ça intéressant quand même de se dire qu'il y a des gens qui, et j'ose espérer que ce n'est pas que la famille, mais peut-être, qui ne voient même pas les projets qu'ils soutiennent. C'est assez drôle.
Je me posais une question, Marianne Dujarrier. Les bricoleurs que vous interrogez, qui sont des gens qui travaillent qui sont inscrits sur une plateforme d'échange de services, est-ce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose, une sorte de communauté, ou est-ce que vraiment ils font ça de manière comme un pur échange marchand? Je pense à ça parce que je me dis, est-ce que c'est la question de l'espèce de mouvement qu'ont connu toutes ces plateformes comme Airbnb, etc., où il y a eu au départ être sur Airbnb, donner son appart sur Airbnb, c'était partager un truc qui était un peu, qui était une autre façon de voyager, un autre rapport aux gens qu'on accueillait, etc. Puis progressivement, on a vu que ça s'est hyper professionnalisé, etc. Et donc ces gens-là que vous interrogez, est-ce qu'ils sont vraiment dans un truc très très classique finalement de travail, mais juste dans des conditions, des manières d'entrer en communication différentes, ou est-ce qu'ils ont l'impression de participer à un autre rapport aux clients?
C'est plutôt l'option 1. Les travailleurs que j'ai rencontrés, j'ai pas fait de statistiques suffisamment établies pour généraliser, mais ceux que j'ai rencontrés qui ont des statuts très différents sont néanmoins très généralement sur ces plateformes pour l'argent qu'elles peuvent apporter, même si c'est peu. Donc soit des professionnels qui font ça pendant leur creux, alors qu'ils n'ont pas d'autres clients, soit des gens qui n'ont vraiment pas de revenus ou pas d'emploi, etc., et qui comptent en fait sur ces interventions pour gagner de l'argent. Donc ils sont plutôt dans une logique professionnelle. Par ailleurs, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si c'est le cas sur les plateformes que vous étudiez de la culture, ce qui est très très frappant sur ces plateformes numériques, c'est le phénomène de la notation. Vous connaissez ça très bien. Vous notez, à chaque fois que quelqu'un vient faire quelque chose, vous le notez et il est susceptible de vous noter également.
C'est une forme de participation aussi.
Alors, c'est une participation au travail de surveillance. Moi, j'appelle ça du management. C'est-à-dire qu'au fond, quand on note un prestataire, en termes fonctionnels, on a un pouvoir encore plus grand qu'un contremaître. C'est-à-dire que la personne se tient à carreau. Je veux dire, elle arrive 2 minutes en retard, elle s'excuse 40 fois. Ce qui m'a vraiment frappé dans l'attitude de ces personnes, ce sont essentiellement des hommes, hein, 99%. Et les clients, ce sont surtout des clientes. Bon. C'est leur servilité en réalité, c'est-à-dire leur hyper gentillesse, leur hyper ponctualité. Tous les messages qu'ils mettent sur Internet, c'est je suis totalement disponible, j'adore le travail bien fait, je suis passionnée par ce que je fais, je laisserai tout bien chez vous. Enfin, un discours qu'on a pas toujours l'habitude d'entendre chez les professionnels du bricolage.
C'est vraiment la même chose qu'avec les taxis. Et
voilà,
les
exactement. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de qualité qui est infiniment supérieure. Et en même temps, par le fait de la notation, un rapport qui n'est pas du tout celui du voisin qui vient vous donner un coup de main, ce que certaines plateformes promettent. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire, d'abord, ils sont rarement des voisins parce que les clients sont souvent plutôt des classes sociales supérieures. Je n'avais pas fini ma sociologie des acteurs, mais les clients sont souvent des clientes de classe sociale supérieure et les travailleurs sont plutôt des gens qui, en général, ne peuvent pas se payer un 100 mètres carrés dans le Marais. Donc, qui habitent en général plutôt loin. Enfin, moi, ceux que j'ai fait venir, j'en profite pour refaire des travaux à la maison. Ça ne se passe pas bien, d'ailleurs, parce que c'est quand même des amateurs. Ils viennent plutôt de... Voilà, ils se font une heure et demie de trajet pour venir. Hein. Ce n'est pas des voisins qui viennent vous donner un coup de main. C'est ce qui était le but de ces plateformes à l'origine. Peut-être que ça marche de manière plus proximale dans les régions moins urbaines, enfin en dehors de Paris ou dans des régions même rurales. Je ne sais pas, il faudrait aller voir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh ben, comme il est 20, c'est ça à peu près ? Il est 23, donc dans 7 minutes, vous avez une seconde table ronde qui commence et qui abordera la question de la participation, mais d'un point de vue plus directement politique. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à tous les trois de cette discussion. Et puis, restez pour la table ronde suivante si vous avez encore un peu de temps. Merci, au revoir.